Acte 24, verset 27, jusqu'à Acte 26, verset 32, tiré de la Bible, édition Louis II, 1910. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Festus, étant arrivé dans la province, monta jusqu'à 3 jours après. De Césarée à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui, et dans des vues hostiles, lui demandèrent, comme une faveur, qu'il le fît venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. « Que les principaux d'entre eux descendent avec moi, » dit-il. S'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amenât Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant, « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem, y être jugé sur ces choses en ma présence ?» Paul dit, « C'est devant le tribunal de Césarée que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. » Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, tu en as appelé à César, tu iras devant César. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là quelques jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit, « Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mise en présence de ses accusateurs, qu'ils aient la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici, et sans différer, je m'assis le lendemain sur mon tribunal et je donnai l'ordre qu'on amenât cet homme. Les accusateurs, s'étant présentés, ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière, un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait vivant. Ne sachant quelle partie prendre dans ce débat, je lui demandai s'il voulait aller à Jérusalem, y être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le gardât jusqu'à ce qu'on l'envoyasse à César. Agrippa dit à Festus, je voudrais aussi entendre cet homme demain. Répondit Festus, tu l'entendras. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit, roi Agrippa, vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme, au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi. Soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui méritait la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes, « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement les coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement, parce que j'espère l'accomplissement de la promesse de Dieu, que Dieu a fait à nos pères, et à laquelle aspirent nos 12 tribus, qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon souffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celle du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à voix haute, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont arrivées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent, et en se retirant, ils se disaient les uns les autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme pouvait être lâché s'il n'eût pas appelé à César. »
Merci, Christian. On va prier ensemble. Père éternel, nous venons dans ta présence pour disposer nos cœurs à entendre ce que tu as à nous dire ce matin à travers ta parole. Seigneur, cette histoire biblique, histoire des premiers apôtres, nous croyons, Seigneur, qu'elle a été inspirée par ton Esprit Saint, Seigneur, et que cette lettre qui a été lue n'est pas simplement une histoire, mais une sainte lettre, écrite par toi, Seigneur, pour nous instruire, nous enseigner, nous conduire dans la lumière, dans ta présence, Seigneur. Père, je veux te demander de venir nous rencontrer ce matin, de venir prendre les vérités de ta parole, Seigneur, de les éclairer par ton Esprit Saint, que ces vérités deviennent vie dans nos cœurs, Seigneur, que cela fasse du sens dans nos vies. Remplis-moi de ton Esprit, Seigneur, afin que j'annonce ta parole en conformité, Seigneur, avec ta pensée. Fais disparaître Yannick pour mettre en avant Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. Amen. Tout un passage, n'est-ce pas? C'est long, disons-le. On arrive à la fin du livre des Actes. Je vais prendre juste un instant pour vous situer un petit peu avant d'aller dans vraiment ce que je veux souligner dans le passage, mais on arrive à la fin du livre des Actes. Le livre des Actes des apôtres, c'est l'histoire de ce qui s'est passé avec les premières églises après que Jésus a été crucifié, soit ressuscité des morts le troisième jour, et puis ensuite il est monté, retourné auprès de son Père, et il a donné un mandat, une grande commission, une grande mission aux disciples. Et il leur a dit, vous allez recevoir bientôt l'Esprit Saint, donc vous ne serez pas seuls, vous ne serez pas orphelins. Mon Esprit va venir faire sa demeure en vous et rempli de cette puissance de Dieu, vous allez aller vers toutes les nations de la terre, annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, faire des disciples de Christ sur toute la terre. Et lorsqu'on lit ce récit-là, le livre des Actes des apôtres, qui est souvent aussi appelé le livre des Actes du Saint-Esprit, bien on voit cette prophétie, non seulement une mission qui est donnée, un mandat qui est donné, mais une prophétie. Parce qu'on voit cela s'accomplir à travers le livre des Actes d'une manière extraordinaire. L'Évangile va être partagé à Jérusalem, mais beaucoup plus vastement que Jérusalem, va sortir de Jérusalem et puis va commencer à se répandre un peu partout dans l'Empire romain. Un des personnages les plus significatifs dans le livre des Actes, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été mandaté, comme Christian vient de nous le lire, par Dieu pour aller vers les nations non-juives, vers les nations païennes, aller leur annoncer l'Évangile. Maintenant, après plusieurs années de voyage à l'extérieur de sa terre natale, à l'extérieur de Jérusalem, il revient faire un bref séjour à Jérusalem et Dieu lui avait annoncé, d'une manière miraculeuse, Dieu lui avait annoncé que les choses se passeraient mal rendues là. Mais convaincu qu'il devait le faire, il s'est rendu quand même et comme de fait, les Juifs qui ne voulait pas, une partie des Juifs importante résistait à ce message que Jésus était le Messie que les Juifs attendaient. Et donc, ces Juifs qui s'opposaient à la foi chrétienne se sont saisis de lui et allaient le mettre à mort. Ils allaient le mettre à mort, mais à ce moment-là, les autorités romaines, parce qu'Israël est sous domination romaine, à ce moment-là, les autorités romaines qui ne veulent pas avoir une émeute, puis commencer à avoir plein de conflits dans la ville, sont intervenus, ont arraché littéralement Paul des mains des Juifs. Et puis, on entre dans une longue période de sa vie qui va durer quelques années où Paul va se promener de tribunal en tribunal, il va comparaître devant différentes personnes et informer que les Juifs ont préparé un guet-apens pour pouvoir le tuer même illégalement. Et bien, ce qu'il va faire, puisqu'il est aussi citoyen romain, il va faire appel à César afin que son jugement soit déplacé à Rome, loin de ceux qui allaient tout simplement essayer de tendre un guet-apens et puis le mettre à mort. Et là, on trouve Paul à différents moments où il est en train de comparaître puis il est en train de se défendre. Et comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans le livre des Actes, ce qui est vraiment particulier, qui est très, très beau à voir, c'est que Paul a, comme il vient juste de le dire, Paul a des chaînes aux mains, aux pieds. C'est un prisonnier, d'accord? Mais celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, n'est jamais véritablement prisonnier. Jamais véritablement prisonnier. Les hommes ne peuvent pas enfermer cette force, cette puissance extraordinaire que l'Évangile a amenée dans sa vie et à chacune des comparutions, tu lis l'histoire, puis à un certain moment donné, tu te dis, mais attends un petit peu, là, c'est qui est en train de diriger la situation? Je veux dire, Paul est là, puis il pourrait mourir à tout moment. Ces gens-là ont une autorité sur sa vie. Mais Paul se tient debout et annonce l'évangile de Jésus-Christ à chaque fois, à chaque fois. C'est glorieux, c'est beau à voir. C'est beau à voir. Pendant que je me préparais pour étudier le passage, puis je relisais les chapitres 23, 24, 25, 26, 27, 28, puis j'essaie de voir les grands thèmes, puis les choses qui me frappent, puis comme on arrive à la fin du livre des Actes, je veux faire ressortir des éléments qui sont là, il y a des thèmes qui sont là depuis le début du livre des Actes, puis que j'ai peut-être moins souligné, parce que chaque fois qu'on prêche sur un passage, bien on ne peut pas exposer tout ce qu'il y a dans le passage, évidemment. Chaque fois que je relisais ces chapitres-là, mon regard était attiré au chapitre 26, sur les versets 17 et 18. C'est Jésus qui parle à Paul et il dit à Paul, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du peuple d'Israël, et du milieu des païens, c'est-à-dire tous les non-juifs, vers qui je t'envoie, vers les non-juifs, afin que tu leur ouvres les yeux. » Chaque fois, mon attention est arrêtée là, avec ce grand thème de cette nécessité que le cœur humain a besoin que Dieu lui ouvre les yeux. Pendant que j'étais en train de me préparer, les titres qui venaient à mon esprit pour le message, c'est « Allume ». Allume pour voir clair. Je vais commencer ce matin avec une question qui s'adresse à chacun d'entre vous. Est-ce que tu vois clair? Est-ce que Dieu t'a ouvert les yeux? C'est vous qui avez la réponse sur ça. Et il n'y a personne ici dans la salle qui peut répondre légèrement à ça, parce que vous disiez oui ou que vous disiez non, il y a beaucoup d'implications, je vous l'assure. Je vous l'assure. Est-ce que tu vois clair? Est-ce que Dieu t'a ouvert les yeux sur l'état de ton cœur? Sur ton état spirituel, mais pensée spirituelle dans le sens le plus large du thème. Lorsque je parle de spirituel, je suis en train de parler de tout ce qu'on est intérieurement dans nos valeurs, dans notre manière de voir la vie, dans les choses qu'on poursuit. Pour moi, tout ça, c'est spirituel. Parce qu'on parle des valeurs profondes du cœur. Est-ce que Dieu t'a ouvert les yeux sur l'état de ton cœur? Est-ce que tu y vois clair? Le passage continue et Paul dit « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Alors si je reste avec l'idée de Jésus ici qui est en train de s'adresser à Paul, est-ce que Dieu t'a ouvert les yeux sur les ténèbres de ton cœur? Est-ce que Dieu t'a montré l'état de ton cœur? Parce que le langage qui est utilisé ici, c'est pas beaucoup d'options, hein? Il y a les ténèbres, il y a la lumière. Est-ce que Dieu t'a ouvert les yeux pour que tu vois les ténèbres de ton cœur? Jésus continue en disant que tu puisses passer de la puissance de Satan à Dieu. De la puissance de Satan. Satan est dépeint dans les Écritures comme l'ennemi de Dieu. Celui qui veut garder l'homme dans un état d'abattement, de dépravation, un état où l'être humain ne cherche pas à honorer celui qui l'a créé, ne cherche pas à connaître le Dieu créateur qui l'a mis sur la terre. L'être humain qui dit, tu m'as créé pour être bon, pour être beau, pour te glorifier, puis non, je vais choisir ma course à moi, mon chemin à moi. Est-ce que tu es capable de répondre dans ton cœur ce matin, de quel des deux côtés tu es? De quel des deux côtés tu es? Gardez cette question-là dans votre tête. Et peut-être que vous dites, non, la réponse est super facile, je le sais. Moi, je prétends que la réponse n'est pas si simple que ça. Dans ce passage-là, il y a plein de monde qui ne voient pas clair, qui n'ont pas les yeux ouverts. Il y a plein de monde où on voit que c'est pas si simple que ça de voir clair sur notre propre cœur. Ailleurs, dans la parole de Dieu, Dieu dit que l'homme pense comprendre ce qu'il est, mais c'est Dieu qui sonde le cœur. Et à travers des circonstances dans nos vies, à travers la parole de Dieu, à travers des amis, à travers des gens qui nous parlent, on a des pistes, des indicatifs, des hints qui nous aident à voir dans le fond l'état de notre cœur. Mais dans ce passage-là, il y a plein de monde qui ne voit pas clair. Je veux dire, à commencer par Paul. Paul lui-même qui, de son propre aveu, dit « Non, mais j'étais tellement, tellement, tellement à côté de la plaque. » Regardez ce qu'il dit un peu plus tôt au verset 8 et 9. Il dit quoi? « Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? » Et là, il se rappelle le temps avant qu'il connaisse Jésus-Christ, avant que Dieu lui ouvre les yeux. Et il dit, « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. » Maintenant, vous devez savoir que Paul était un homme extrêmement instruit. C'était un homme versé pour son époque. Et je sais, des fois, on a l'impression que ces époques-là, c'est des époques d'attardés mentaux qui connaissaient absolument rien. Parce que nous, je veux dire, écoute, on a l'avènement de l'information, de la communication, Internet, nous savons tout. Mais la réalité, c'est qu'on tourne, on tourne, on tourne les mêmes questions existentielles depuis ce temps-là. Allez lire les philosophes, vous allez voir, d'accord? Et Paul était versé non seulement dans la foi, dans la religion juive, dans l'Ancien Testament, mais c'est un homme qui était versé dans toute la culture de l'époque. Il pouvait s'adresser à des foules juives, il pouvait s'adresser à des foules à Athènes, et rapidement, les gens l'entendaient parler, il connaissait cette culture-là. Paul était un homme instruit. Mais voici ce qu'il dit ici. « Pour moi, malgré toutes mes connaissances, mes grandes connaissances, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus-Christ. » Il faut que vous sachiez que les Juifs attendaient depuis des siècles, et malheureusement, un grand nombre d'entre eux attendent encore, attendaient depuis des siècles un sauveur, un Messie qui viendrait pour sauver le peuple d'Israël. Sauver le peuple d'Israël de ses péchés fondamentalement. Et peut-être que cela, il n'avait pas vu venir. C'est peut-être ça qui a nui. Mais donc, Paul attendait ce Messie-là, connaissait les prophéties, il étudiait ça. C'était un pharisien, c'était un expert là-dedans. Et malgré toutes ses connaissances, lorsque Paul a entendu parler de Jésus-Christ, il a dit ça, là, c'est une peste, cette affaire-là. Ce gars-là, là, il est venu pour détruire la foi. Et donc, avec vigueur, avec agressivité, avec violence, Paul a commencé à persécuter Jésus-Christ, Jésus le Christ, Jésus le Messie, le Fils de Dieu. Et il mettait son cœur à l'ouvrage. Il était là chaque fois qu'il était en train d'en lyncher un, il donnait son vote. « Oui, oui, allez-y! » Il croyait qu'il était en train de servir Dieu. Il trouvait des chrétiens. Il trouvait le moyen de les torturer jusqu'à ce qu'ils puissent éventuellement renier leur foi. Tu vas le dire que ce n'est pas le sauveur. Mais il croyait. Il croyait qu'il faisait la bonne chose. Il croyait qu'il était dans la vérité. Il croyait qu'il voyait clair avec toutes ses grandes connaissances. Paul ne voyait pas clair sur son propre cœur, ne voyait pas clair. Les Juifs dans le passage ici, qui finalement ont amené à ce que Paul soit arrêté, puis tout ça, qui après avoir rejeté Jésus, un grand nombre d'entre eux, et finalement avoir voulu le faire mettre à mort, l'ont confié aux Romains, ils ont convaincu les autorités de crucifier Jésus, bien maintenant s'en prennent à Paul. Mais ces Juifs-là lisent les Écritures depuis des siècles, ils attendent le Messie, ils attendent un sauveur. Puis je veux dire, là, on est rendu dans l'histoire, ils ont eu toutes les opportunités du monde de voir que cette gang de Jesus freaks-là qui disent que Jésus de Nazareth, cet homme-là qu'ils ont crucifié, cette gang de Jesus freaks-là, c'est pas juste une secte, cette affaire-là, c'est pas juste une gang de gens qui sont en train de tordre des choses. Non, ils voient le témoignage de l'Église, ils voient le témoignage des chrétiens qui meurent martyrs dans une dignité, une grâce digne de Dieu, digne des plus grands prophètes de l'Ancien Testament qui avaient été eux aussi autrefois rejetés, par leur peuple, certains d'entre eux mis à mort. Mais on retrouve cette même passion qui est là. Et pourtant, comme le dit Paul, il dit « Tout ce que je suis en train de faire, je suis en train de prendre les livres qui leur sont tellement chers, l'Ancien Testament, les prophètes, la loi, tout ça, puis je suis en train de leur montrer que Jésus est bel et bien l'accomplissement de ses prophéties. Mais ils ne voient pas clair. Ils sont convaincus qu'ils voient clair tant et si bien qu'ils sont prêts à en mettre un autre à mort, puis un autre à mort, puis un autre à mort. » Festus. Festus est là, il écoute, et puis c'est un gouverneur, c'est un homme instruit. Au verset 24, acte 26, 24. Comme Paul parlait, ainsi, pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul! T'es malade! Ton grand savoir te fait flipper, mon vieux! Ça n'a pas de bon sens ce que tu es en train de dire! » Mais c'est intéressant qu'il est en train de dire ton grand savoir. Comprenez, lorsque Festus écoute Paul, il n'est pas en train de se dire « C'est un innocent. C'est un naïf qui s'est fait pogner dans une secte et il n'est pas tellement brillant. Tu » sais. Non, il dit « Ton grand savoir t'a fait déraisonner. » Agrippa, le roi Agrippa, qui lui avait la culture juive pour comprendre, Paul il dit « Est-ce que tu crois dans les prophètes, Agrippa? Est-ce que tu connais les prophètes? Je sais que tu connais les prophètes. » Agrippa, dans son cas, c'est plus subtil. Hein? Je pense qu'Agrippa ne voulait pas voir. On sent dans le passage de l'ironie, n'est-ce pas, dans la réponse d'Agrippa. Il dit « Arrête, là. Encore un peu, puis je vais devenir chrétien si tu continues. Come on. » Ne veut pas voir la vérité. Pourquoi est-ce que j'ai pris le temps de souligner ça? C'est parce que je vois vraiment cette idée dans le passage qu'il y a une lumière qui doit venir. Et on peut répondre simplement en disant, « Ben oui, c'est clair, je comprends. » Mais répondre à la question, « Est-ce que tu vois clair dans ton cœur? » Ce n'est pas une réponse simple. Et ce que moi, je vois dans le texte ici, c'est que naturellement, l'être humain n'est pas capable de voir clair dans son cœur. Par nous-mêmes, par nature, nous nous trompons nous-mêmes facilement. Ce n'est pas naturel à l'homme. Écoutez, vous avez Paul qui est là. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui avait toutes les informations nécessaires, il avait la loi de l'Ancien Testament, il y avait les prophètes qui parlaient à son cœur et tout ça, il aurait dû voir clair. Mais ce n'est pas naturel à l'homme de voir son cœur. Paul était un homme religieux. C'est un homme qui avait appris dès sa tendre enfance à être attentif à son cœur pour savoir s'il marchait dans la sainteté. J'ai bien aimé ce que Pasteur Jeff Lorraine nous a rappelé cette semaine à Sola en nous parlant des pharisiens lorsqu'il dit, regarde, ces gens-là, on les voit comme, tiens, maintenant c'est un terme cynique, péjoratif, espèce de pharisien. Oui, mais faut quand même comprendre, ces gens-là, dès leur tendre enfance, étaient instruits dans la loi. Parmi tous les Juifs, c'était le mouvement qui était là et qui étudiait la loi et qui apprenait à chercher c'est quoi la sainteté, c'est quoi qui va glorifier Dieu. Paul, dès sa tendre enfance, avait été aiguisé à écouter la parole de Dieu pour voir s'il était en train de marcher avec Dieu. C'est un homme religieux, c'est un homme de principe, c'est un homme qui connaissait la Bible à fond. Il y a des gens dans ce mouvement-là qui mémorisaient littéralement tout l'Ancien Testament. Ça existe encore aujourd'hui, ça. Alors, certainement que Paul en avait mémorisé de larges portions. Il connaissait les Écritures, convaincu d'y voir clair. Et pourtant, avec la dernière de ses énergies, il s'applique à massacrer des chrétiens, à tuer des chrétiens. Il haït profondément le nom de Christ. Il l'haït, réalisant pas que c'est son Messie, c'est son Sauveur qui attend depuis toujours. Voyez-vous, c'est pas naturel au cœur humain de voir ce qui se passe en nous. C'est pas notre tendance naturelle. Et sans l'intervention de Jésus dans la vie de Paul, puis Paul, il faut croire que c'était une tête plus dure que les autres, Jésus a décidé d'y apparaître. Moi, il ne m'est jamais apparu. Je ne veux pas dire par là que je suis plus enseignable que Paul. Je n'oserais pas dire ça. mais sans l'intervention de Jésus, pour que Jésus l'arrête dans sa folie. Puis qu'il dise, « Hey, copain, tu ne réalises pas, mon homme, que tu es en train de persécuter ton Messie, ton Sauveur. Tu es en train de massacrer, de tuer les gens qui célèbrent tout ce que tu attends depuis toujours. Tu ne réalises pas ta folie, ton aveuglement. » Sans l'intervention de Jésus dans la vie de Paul, je disais, Paul continuait, mes amis, puis il arrêtait quand? Il arrêtait quand? Il ne restait plus un. Comprenez? Il allait chercher des lettres. OK, on a fini à Jérusalem, prochaine ville. Je m'en vais les chercher. Sans l'intervention de Jésus, Paul n'aurait jamais vu son propre cœur. Et j'aime l'image des ténèbres. Imaginez un instant que vous avez toujours vécu dans les ténèbres. Imaginez un instant que vous n'avez jamais connu la lumière. Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe ici pour vous? C'est la normalité. C'est comme ça. Les Écritures nous disent que le cœur de l'homme, naturellement, est pécheur. Et cet état-là, c'est un état, on n'est pas nécessairement confortable, mais c'est l'état dans lequel on est. Je l'ai dit tout à l'heure dans la prière, lorsque je priais pour les petits-enfants, et si vous êtes parents, vous le savez, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, vous savez, ces belles petites bêtes-là, ça devient des crapules assez vite. Hein? C'est pas long. Ah, c'est des belles petites crapules, on les aime. On va même des fois sourire lorsqu'ils font des choses qui n'ont pas de bon sens. Parce que c'est nos petites crapules à nous. C'est des petites crapules. Puis il faut à quelque part les guider dans la vie pour les aider à avoir un peu plus de discernement, de sagesse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce handicap qui est extrêmement rare. Ça s'appelle anophthalmie. Et il s'agit de personnes qui naissent sans aucun tissu oculaire. On a une photo ici d'un enfant qui est né dans son corps. Lorsqu'il est né, c'est difficile à voir sur cet écran-là. Allons-y par là. Ce n'est pas juste un beau petit sourire, il n'y a rien derrière les paupières. D'accord? Aucun tissu oculaire. Rien. Cet enfant-là va grandir, pour le reste, il va se développer normalement. Mais comment on va expliquer à cet enfant-là c'est quoi la lumière? Mon fils qui a un esprit mille fois plus scientifique que le mien, moi je m'en tiens à la poésie, c'est assez pour moi. Essaye de m'expliquer c'est quoi la lumière. Papa, la lumière, c'est... La lumière n'est pas vraiment là. Tu sais, je n'ai pas compris encore. Il m'a expliqué 3-4 fois. Je la catch pas. Tu sais, je ne comprends pas l'électricité. Je ne comprends pas la lumière. Je comprends que la vie est belle, puis Dieu fait des belles choses, puis j'aime les regarder. Mais comment on explique à cet enfant-là c'est quoi la lumière, puis c'est quoi des yeux? Ses yeux, ce sont ses mains. Non, mais laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler. Du turquoise sur une mer. Tu l'entends, tu la sens, mais laisse-moi te parler de la mer qui est turquoise. Comment t'expliques ça? Pas Dieu. Jamais vu ça. Alors pour lui, c'est pas naturel. Et c'est ce que les Écritures nous disent par rapport à notre propre cœur. C'est pas naturel pour celui qui est né pécheur. De réaliser qu'il est dans les ténèbres. Et je pense que des fois, on a des indices. On a des indices parce que même si notre cœur est tortueux, il y a des choses qu'on fait dans la vie où on se déçoit nous-mêmes. On se trouve cheap. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour te trouver cheap. Tu as une conscience. Puis tu envoies une vacherie à quelqu'un. Tu envoies une platitude. Tu n'es pas fin. Tu es égoïste. Tu as des indices. Tu as des indices qu'il y a quelque chose de chronique en dedans qui ne marche pas comme c'est supposé de fonctionner. Tu as des indices. Tu as des indices même peut-être qu'à quelque part, ta vie ne glorifie pas Dieu. Mais il faut que Dieu vienne se révéler à toi. Je vais donner une autre illustration, d'accord? Dans votre entourage, vous avez peut-être des gens qui ont des dépendances majeures, d'accord? Addicts solides. C'est quoi la grande caractéristique de quelqu'un qui a une grosse dépendance? C'est la négation. D'accord? Je vous dis, la première caractéristique de quelqu'un qui est dépendant, c'est quelqu'un qui dit « Non, je ne suis pas dépendant. » Les gens sont là autour de lui, puis il dit « Non, non, mais tu ne comprends pas, c'est juste que tu ne vois pas. Tu es à l'intérieur. Les gens autour de toi le voient. Tu ne vois pas ce que tu es en train de détruire. » Je ne sais pas si vous avez déjà jasé avec un gambler qui vous dit qu'il n'est pas un gambler. C'est juste qu'il a trouvé la dernière martingale pour pouvoir aller gagner l'argent qui manque. Tout ce qui lui manque, c'est assez d'argent pour aller faire l'exercice. Mais il n'est pas dépendant, par exemple. Il n'est pas dépendant. Essaye d'amener de la lumière à quelqu'un qui a une dépendance comme ça. Une illustration assez loufoque, d'accord? Ceux qui ont vu les vidéos Chess Bro, ouais, OK? Chess Bro. Voilà, des années, mon frère, puis moi, on commence à aller s'entraîner dans un gym. On était jeunes, il y a peut-être 17, 18 ans. Je pense qu'on a un Chess Bro à quelque part. Bon, la joke, pour ceux qui ne l'ont pas vu, écoutez ce que moi, j'ai découvert lorsque je suis arrivé dans un gym la première fois, il y a des années, d'accord? Je suis arrivé devant une espèce de bébite incroyable. Mon frère puis moi, on s'en va là, puis bon, OK, on avait des ambitions. On était jeunes et beaux à l'époque. Et bon, il fallait juste se parfaire un petit peu pour être certain de pouvoir réussir notre placement. On s'en va là-bas. Première affaire que je découvre là-bas, c'est qu'il y a des gars qui sont faits comme ça, comme ça, comme ça, puis comme ça. Je savais même pas que ça existait. Je veux dire, les gars, ils étaient là, ces machines, avec des bras de débiles. Je m'excuse, je voudrais pas insulter personne, mais peut-être que je suis vieux avec des jambes d'Éthiopien. Vous comprenez? Des pics à la place des jambes. Je veux dire, on dirait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tiré ça par en haut. Ça s'est tout atrophié, puis c'est allé dans les bras. Mais j'étais là, puis je les regardais, puis je me disais, mais je veux dire, les gars sont intelligents. C'est pour de vrai, là. C'était ça que je me disais. Je me disais, non, mais c'est pas des débiles. Ils sont intelligents, ce monde-là. Ce monde-là a évolué, d'accord? Je veux dire, des chess bras, il y en a de moins en moins, là. Okay? En général, tu t'en vas là, puis les gars essaient d'avoir quelque chose, tu sais, qu'il y a de l'allure, bien découpé, tout ça, tu sais. Puis, bon, OK, il y en a, ils veulent se gonfler jusqu'à temps qu'ils explosent, mais vous comprenez, c'est proportionné. L'explosion va éclater de tous les bords en même temps. Mais je veux dire, moi, je les regardais pour de vrai, ma réflexion, je me disais, non, mais ils n'ont pas de miroir chez eux. Ça se peut pas, je veux dire, quand, tu sais, quand tu te mets dans ta plus simple expression, là, puis tu te regardes dans le miroir, là, les deux bras ne rentrent pas dans le miroir, mais je veux dire, au centre, il reste ça. C'est des gens intelligents. Mais je prends ça pour illustrer, c'est loufoque, je le sais, c'est... Vous dites, il déconne un matin. C'est comme ça le cœur humain. C'est comme ça le cœur humain. On est aveugle sur notre propre cœur, puis il y a des choses qu'on ne voit pas dans notre cœur. On ne les voit pas. Et pour se tourner vers Dieu, pour aller rencontrer Dieu, connaître Dieu, il faut que ce soit lui qui fasse les premiers pas, qui vienne à notre rencontre. Il faut que ce soit lui qui vienne vers nous. Par nous-mêmes, on n'est pas capable d'y arriver. Il faut que Dieu fasse les premiers pas pour venir te rencontrer et commencer à t'éclairer. Paul en avait besoin. Chacun d'entre nous, on en a besoin. Alors, c'est pour ça que je vous dis, quand je vous demande, est-ce que tu vois clair sur ton cœur, je ne pense pas que c'est une question facile. Je pense que c'est une question qui demande toute l'assistance du Saint-Esprit pour pouvoir y répondre. Et comment est-ce que ça se passe lorsque Dieu commence à éclairer tes yeux? Tu commences à voir clair sur ton propre cœur. Revenez avec moi dans le passage. Jésus dit à Paul, voici ce que tu vas faire. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, des nations, vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. Comment est-ce que ça se passe? Tu découvres la personne de Jésus-Christ afin qu'ils reçoivent par la foi en moi. C'est Jésus qui est en train de parler. Et la lumière vient dans ton cœur lorsqu'un jour, tu entends l'histoire de Jésus et le Saint-Esprit, d'une manière mystérieuse et extraordinaire, vient prendre cette histoire-là qui... pendant peut-être des années, a été théorique, puis une affaire pour les grenouilles de bénitier. Puis tout d'un coup, ça devient concret. Puis tu te dis, mais attends un peu. C'est pas une histoire pour les religieux, cette affaire-là. C'est une histoire pour les cœurs sombres et tortueux comme le mien. Et tes yeux s'ouvrent sur une personne, sur la personne de Jésus-Christ. Tu découvres qui il est, ce qu'il a fait. Et regardez dans le passage, encore avec cette image des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, il dit « pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, qu'ils sortent de ces ténèbres et qu'ils reçoivent par la foi en moi l'héritage avec les sanctifiés, qu'ils entrent dans cette lumière de ceux qui ont été simplement lavés, pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait sur cette croix et qui sont la communauté des graciés, de ceux qui ont été pardonnés et qui maintenant marchent chaque jour de leur vie en disant « Mon cœur, si ce n'était pas pour la grâce de Christ, si ce n'était pas pour le pardon de Dieu, boy, mais où est-ce que je serais aujourd'hui? » Si ce n'était pas pour la grâce de Dieu. Et donc, ce qui est déterminant, c'est cette révélation de la personne de Christ et que je vienne à croire en Jésus-Christ. Et une fois que tu as reçu ce cadeau-là, cette grâce-là, bien, il y a une mission qui t'est confiée. Parce que si je répète depuis tout à l'heure que c'est impossible pour le cœur humain de sortir lui-même des ténèbres, il faut que Dieu l'attire à lui. Dieu le fait, à part dans de rares exceptions comme Paul. Dieu le fait à travers un agent humain. Ce matin, je vais déclarer deux choses qui semblent contradictoires, d'accord? Et je pense qu'ils sont profondément bibliques. C'est impossible à l'être humain de venir à Dieu par lui-même. Le Seigneur lui-même a dit, si ce n'est le Père qui l'attire, c'est impossible. C'est Dieu qui prend l'initiative. Tu crois que tu cherches Dieu, c'est parce que Dieu te cherche depuis longtemps. Tu sens dans ton cœur que tu cherches Dieu, c'est parce que l'Esprit Saint a déjà commencé à faire un travail où il t'attire à Dieu. Parce que par nature, tu ne chercherais pas Dieu, c'est pas vrai. Et donc, on pourrait dire, oui, mais ça dépend seulement de Dieu. Non seulement ça ne dépend pas seulement de Dieu, mais ça dépend même pas seulement de la personne qui doit recevoir. Ça dépend aussi de celui qui va aller et qui va parler. Parce que ce que Jésus dit ici à Paul, il dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que toi, tu leur ouvres les yeux. » Oui, mais si c'est Dieu qui attire, comment est-ce que moi je peux ouvrir les yeux? Bien déjà, tu as un avantage, tu as découvert que tu avais les deux yeux bouchés il n'y a pas si longtemps. Que ton cœur était dans les ténèbres. Et cette lumière-là qui est venue sur ta propre vie, sur ton propre cœur, devrait t'instruire dans l'humilité, qui te permet d'aller vers des gens sans arrogance, sans prétention. Mais avec cette même humilité, voyez-vous, Paul est en train d'annoncer à Agrippa, à Festus, comment sortir de ces ténèbres. Et comment est-ce qu'il le fait? Il leur dit, faites-vous-en pas les boys, je vais vous dire que vous êtes pécheurs, mais laissez-moi vous raconter mon histoire pour commencer. Je veux dire, moi quand même, vous me laissez parler. Moi, je ne les laissais même pas parler. Je m'assurais qu'il n'y avait même pas le temps de parler, de peur que quelqu'un les entende. Fait que tout ce que je vais vous dire sur votre propre cœur, votre état de péché, faites-vous-en pas les boys, j'étais pire, j'étais plus crasse que ça. Et donc, si tu as connu Jésus-Christ, c'est que cette lumière est venue dans ton cœur. Tu as découvert la noirceur, les ténèbres de ton propre cœur. Et cela t'instruit dans une humilité qui te permettent d'aller vers les gens, même si le message a de l'air tellement prétentieux. Et c'est ça que je voyais en lisant le texte, je me disais, mais boy, qu'on est contre-culturel, ça se peut pas. Je veux dire, on vit à l'époque où tu n'as pas le droit de dire à personne, hey, peut-être que tu te trompes, peut-être que c'est un sens unique. peut-être que tu n'as pas le droit de faire ça. Regarde, je sais, j'ai ma vérité, tu n'as pas besoin de te mêler de mes affaires. Même le policier t'arrête, tu discutes avec lui pour lui dire qu'il est d'impatate puis qu'il s'est trompé. Fait qu'on vit à une époque où tu peux pas approcher quelqu'un puis dire ça se peut-tu comme que toute ta vie soit dans la mauvaise direction? C'est contre-culturel, la patente, vous comprenez? Toi qui possèdes la lumière à l'intérieur de toi et qui est la source émanante de la lumière de ce monde, toi qui peux te guider à ta propre lumière partout dans l'univers, ouais, c'est des ténèbres dans ton cœur, copain. Tout un message. Mais lorsque j'ai connu la personne de Jésus-Christ, Dieu m'a révélé les ténèbres de mon cœur. Et c'est ça qui s'est passé avec Paul ici. Paul a découvert les ténèbres de son cœur. Alors, avec humilité, il peut se présenter devant n'importe qui puis lui dire, écoute, il faut que je te parle de ton cœur parce que Dieu m'a parlé du mien. Je pensais que j'aimais Dieu, je pensais que j'étais un bon gars, je pensais que je marchais dans la sainteté. Écoute, je faisais de mon mieux, man. Je faisais bien mieux que tout le monde pour faire de mon mieux. Puis dans le fond, j'étais tellement à côté de la plaque, j'étais en train de persécuter celui que je disais que j'aimais, j'étais en train de mettre à mort les gens qui étaient en train de servir le Dieu que je prétendais aimer. Est-ce que je peux te parler un petit peu de ton cœur et te parler de Jésus-Christ? Et la chose qu'il faut comprendre avec ça, c'est que je reviens avec mon image, d'accord, de cet enfant qui ne voit pas. C'est pas facile de décrire à quelqu'un qui n'a pas vu la lumière ce que c'est la lumière. Et donc, notre mandat à nous, lorsqu'on a connu Jésus-Christ, bien, voyez-vous, notre mandat, c'est d'amener quelqu'un qui ne connaît pas Christ, qui ne connaît pas la beauté de Christ. Tout ce qu'il voit en Jésus, c'est une patente de bigot. C'est une patente de religieux, c'est une manière de manipuler les foules, c'est une manière de contrôler le petit peuple, la gang d'innocents. Mais moi, je sais que Jésus-Christ est ce qu'il y a de plus beau dans l'univers. C'est la plus belle personne, la plus généreuse, la plus extraordinaire. Il n'y a pas un coucher de soleil qui se compare avec Christ. Il n'y a pas un repas avec le meilleur des vins, la meilleure des tables qui peut se comparer avec rencontrer Jésus-Christ. Comment t'expliques à quelqu'un qui ne voit pas Christ, puis tu veux lui décrire cet être-là magnifique? Ça va prendre du temps. Je veux expliquer la lumière à quelqu'un qui n'a pas de yeux. Et je sais que c'est un travail qui se fait par l'Esprit-Saint. Je le sais, c'est vrai. Mais c'est nous qui devons le faire et Dieu va se servir de nous. Alors, ça se peut que tu passes beaucoup de temps à être très créatif. Et comme Paul le dit ici, tu te promènes dans les Écritures, puis tu tournes, puis tu t'en vas là, puis tu t'en vas dans tel prophète, puis dans tel prophète, puis tu essaies d'expliquer, puis tu essaies d'illustrer dans sa vie, puis dans ta vie. Puis ça se peut que tu patines longtemps. Pensez-y une seconde. Combien de fois est-ce que vous pensez... Rappelez-vous le martyr d'Étienne. Je veux dire, les gars, ils étaient vite, hein? Ils voyaient les roches arriver, puis dans 30 secondes, ils étaient capables de prêcher l'Évangile. Deux minutes et demie. Non, eux autres faisaient 130 secondes. Jésus est annoncé avant que la roche frappe, d'accord? Alors, pensez-y une seconde. Combien de fois est-ce que vous pensez que Paul a entendu parler de Jésus-Christ? Il allait les voir, il essayait juste de les achever avant qu'ils rouvrent la bouche. Mais je veux dire, eux autres, c'est quoi qu'ils faisaient? Paf, gars, je vais mourir. Dernière chance, je t'évangélise, toi, bang! Combien de fois est-ce qu'il a entendu parler de l'Évangile? Combien de fois est-ce qu'il a été exposé à un cœur humilié par son propre état de péché? Parce que chaque fois que tu rencontres un chrétien, tu rencontres quelqu'un qui a vu son propre cœur. Combien de fois Paul a vu ça? Hein, Dieu était créatif avec Paul. Il était très, très, très créatif. Lui, il était vraiment bouché. Il a dit, OK, t'en as assez tué, je vais le faire moi-même. Parce que chaque fois que t'en tues un, ouch, c'est à moi que tu fais mal. Je vais venir te le dire moi-même, l'histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va vous falloir être patient. Il va vous falloir être créatif, connaître la parole de Dieu, être attentif à des moments dans la vie des gens autour de vous. Peut-être que c'est là que Dieu veut venir les rencontrer parce que le cœur s'est attendri, parce qu'il y a eu des circonstances qui font que le cœur est plus ouvert. C'est correct, c'est correct, c'est correct. On essaie de conduire quelqu'un qui ne connaît pas la beauté de Christ, qui a toutes sortes de préjugés sur la personne de Christ, à découvrir la splendeur, la majesté d'un être extraordinaire. Ça va prendre du temps, cette histoire-là. Ça va prendre du temps, cette histoire-là. Et je pourrais être tenté de me cacher derrière l'idée que c'est Paul qui a été appelé à faire ça. Mais à travers tout le livre des Actes, constamment, il nous est rappelé que tous ceux qui viennent à la connaissance de Christ, ce sont des gens que Dieu a approchés. Il y a une phrase troublante qui revient à plusieurs reprises dans ce livre-là, où Luc va dire « tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent ». Parce que c'est Dieu qui a commencé. Par conséquent, si pour toi, dans ton cœur, tu as saisi qui est Christ, tu as saisi que tu étais dans les ténèbres, c'est que Dieu t'a choisi au milieu de cette nation, au milieu de ce peuple, pour que tu ailles vers eux et que tu leur ouvres les yeux. Fait que mon message est le même pour toi. Allume. Allume. Ils en ont besoin. Ils ont besoin qu'on ait ce courage-là, comme Paul l'a dit, de se retrouver devant les grands et les petits. Et par la grâce de Dieu, constamment être là pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. On va se préparer dans nos cœurs à prendre ensemble le repas du Seigneur dans quelques instants. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Et j'aimerais qu'on puisse se courber ensemble dans la prière. On puisse méditer ces paroles, se préparer à prendre ensemble le repas du Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'aime et je sais que si je dis ça à mon voisin, tellement sympathique, qui me dit toujours, « Pasteur, pasteur, prie pour moi! » Si je lui dis, « Ah, mais vous savez, j'aime Jésus. » Je sais, Seigneur, je passe pour un fou, un rétrograde. Un rétrograde avec une barbe, on n'en finit plus. Et Seigneur, je t'aime. Je t'aime parce que tu m'as révélé mon cœur, Seigneur. Et Seigneur, tu le sais, mais ma mère me parlait de toi depuis ma tendre enfance. J'ai eu ce privilège de fréquenter cette assemblée lorsque j'étais tout petit, Seigneur. Et j'entendais cette histoire, je l'entendais constamment. Et j'avais l'impression de tout saisir, Seigneur, mais en même temps, je ne saisissais rien. Parce que je persistais à croire que les choix de mon cœur sans toi étaient les meilleurs pour moi, Seigneur. Mais dans ta grâce, tu as été créatif. Non seulement m'as-tu parlé de toi, Jésus-Christ, mais à travers les circonstances de ma vie, tu m'as parlé de mon cœur, là où me conduisait ce cœur, Seigneur. Et dans ta grâce, tu m'as conduit à cet endroit où j'ai saisi la beauté de Jésus-Christ qui est venu s'offrir, mourir sur cette croix pour mes péchés, Seigneur. Afin que je sois pardonné, qui est ressuscité d'entre les morts, afin que moi aussi, je ressuscite spirituellement et qu'au jour glorieux de ton retour, j'entre dans ta présence pour l'éternité, Seigneur. Seigneur, allume nos yeux et nos cœurs pour que nous ouvrions nos bouches et que nous parlions de Jésus-Christ. Contre vents et marées, Seigneur. Parce que ces gens qui nous entourent sont faits de la même chair que nous. Et leur fermeture, leur arrogance, peut-être leur mépris, n'étant fait que le symptôme d'un cœur qui n'a pas été éclairé par la pureté et la beauté de l'Évangile de Jésus-Christ. Amen.